Allons-y à présent avec notre dernier invité du jour qui est en duplex avec nous dans notre studio du côté de la Côte d'Ivoire à Abidjan. Donc emmené et aujourd'hui c'est le commandant de bord, c'est Alkali Fadiga. Alkali, est-ce que tu nous entends? Bonjour.
Alkali. Salut Aïssa, comment tu vas?
Ah super, bienvenue. Ça va très bien. Alors merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'Africa Radio. Madame Menet Anne Corinne, vous êtes la présidente fondatrice de l'association Yiwo Zone. C'est une association qui vise à promouvoir l'égalité des chances à travers l'éducation des filles et l'alphabétisation des femmes dans le monde rural. Donc une association qui existe depuis 2017. Vous utilisez en fait le système de parrainage qui permet à des particuliers, mais aussi à des entreprises, de prendre en charge des enfants sur le long terme. L'association intervient principalement dans la région de Lanibi et a aussi une antenne dans la commune d'Abobo à Abidjan. L'association scolarise à ce jour 280 filles, dont 28 qui ont intégré le collège entre 2018 et 2020. Et puis depuis 2 ans, l'association offre aussi des fournitures et un suivi à certains petits garçons dans des situations particulières. Alors merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour nous raconter cette belle histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse et pourquoi vous avez décidé de mettre en place cette association Yiwo Zone? Bonjour.
Bonjour Africa Radio.
Bonjour
à tous. D'abord, je veux dire merci pour l'occasion que vous nous donnez. Et puis, en fait, Yiwo Zone, c'est un peu partie de ma propre histoire, en fait. Moi-même, je suis issue du système des associations. Lorsque j'étais, à un moment donné, j'étais toute seule et je faisais les boulots. Et j'ai rencontré une organisation par la suite qui m'a aidée à financer mes études.
Oui.
Grâce à cette organisation, j'ai pu finir l'université, avoir ma maîtrise en droit parce que j'étais en droit, et puis avoir un diplôme en anglais. Et donc, quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire après mes études au Bénin,
oui,
dans ma région, j'ai constaté que les filles en général, pour l'école, n'avaient pas priorité. En fait, dans la famille, s'il y a 6 garçons et une fille, en général, les parents préfèrent mettre la scolarisation sur le garçon.
Oui.
Et souvent aussi, quand il n'y a pas de moyens, on utilise la fille plus pour les tâches ménagères comme aide. Et en général, ils se disent, elle va se marier, il vaut mieux scolariser les garçons, ils vont revenir. Et j'ai eu à vivre beaucoup d'histoires de petites filles comme ça dans la région, dans ma région. Et à partir de là, je me suis dit, vu que moi aussi, j'avais été par une structure qui, à l'époque aussi, priorisait les jeunes filles isolées,
oui,
j'allais monter une structure pareille. Et avec l'aide de certains amis, on a monté. Et c'est comme ça que c'est parti. Et on fait des tournées dans la région. Certaines personnes nous rapportent des histoires. Et c'est comme ça qu'on scolarise des jeunes filles à travers ce qu'on appelle le parrainage.
Oui. Alors justement, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, ce système de parrainage que vous utilisez.
En fait, le parrainage est fait par beaucoup d'organisations dans le monde.
Oui.
Et c'est un système qui consiste à convaincre une organisation, entreprise ou un individu de s'engager à la scolarisation de la jeune fille. Mais auparavant, on compte l'histoire si on est... On utilisait après mes études et pendant que j'étais en fonction dans une banque de la place, j'ai une formation dans une organisation qu'on appelle
Excusez-moi, juste Alkali, est-ce qu'Alkali est à côté? En fait, il y a des petits problèmes de son, il y a des petites coupures, Alkali. Je ne sais pas si tu peux voir ce qui se passe.
Oui, Aïssa, t'inquiète, je m'en occupe.
Très bien. Alors, allez-y, continuez, Madame Menéane, Corinne, désolée.
J'ai formation sur l'utilisation d'Internet, la digitalisation des entreprises. Et du coup, on utilise Internet en majorité pour les parrains. Donc, on utilise les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. On raconte ce qu'on a sur les réseaux et on arrive à intéresser des personnes et ces personnes s'engagent. On a une grille tarifaire pour chaque enfant du CP1 au CM2.
Ouais.
Et quand le parent s'engage à scolariser l'enfant, on a des parents aux États-Unis, en France, partout. Et une fois que les fonds sont transférés à notre trésorerie, nous on achète les fournitures, on fait l'inscription de fonds. Une fois que l'enfant réussit son année scolaire, on envoie les résultats aux parents.
Ouais.
Et l'année suivante, le parent continue l'engagement. Et c'est comme ça qu'on fonctionne.
Qui permet de pérenniser en fait l'action et de permettre d'accompagner l'enfant un petit peu plus profondément et sur la durée.
Sur la durée. C'est comme si en fait le parent adoptait l'enfant.
Ouais.
Et pour voilà, c'est ça. Et en dehors de l'année scolaire, pendant nos tournées, on fait communiquer l'enfant avec son parent via WhatsApp. On peut faire des directs vidéo et on envoie des images. Le parent vit en fait ce que l'enfant vit. En général, on est beaucoup dans les campements. Souvent, il y a des problèmes de réseau, mais on fait des petites vidéos qu'on envoie aux parents.
Ouais.
Et c'est comme ça qu'on fonctionne en fait.
Alors en fait, on donnera plus d'informations aux personnes qui nous écoutent et qui aimeraient accompagner un enfant hein, dans ce sens, puisque c'est possible. Alors parlez-nous un petit peu de la région dans laquelle vous intervenez. Alors je sais que l'association scolarise à ce jour 280 filles, dont 28 qui ont intégré le collège en 2018 et 2020. Vous nous en dites un peu plus ?
Nous intervenons dans la Nibi. Moi-même, je viens de cette région, Côte d'Ivoire, à Beauville, Rubino. Et je connais un peu la région et nous avons des représentants dans la région qui sillonnent les campements à l'approche de la rentrée scolaire pour voir les petites filles en âge d'aller à l'école, mais qui ne sont pas scolarisées.
Ouais.
En fait, dans la région, le taux de scolarisés n'est pas aussi bas qu'au nord, mais quand même, il existe. Il existe parce que les paysans préfèrent garder les filles pour les tâches ménagères et autres à la maison que parfois les emmener à l'école. Et souvent, quand il y a problème de moyens, ils préfèrent les garçons parce que les gens ont cette idée-là que le petit garçon, il va plus réussir, la fille n'ira pas trop loin. Donc, on essaie de convaincre les parents dans la région.
Alors, quels sont les arguments en fait, que vous utilisez pour aller convaincre lors de vos campagnes de médiation ?
En général, on leur montre des exemples de femmes qui ont réussi, des exemples de femmes qui sont parties du campement, du village. Parce que moi-même, je donne mon exemple en premier. Parce que moi-même, je viens de la région. J'ai fait mon entrée à l'école primaire au village, dans la région.
D'accord.
Et je suis partie à l'école et j'ai réussi aujourd'hui. Je peux dire réussi parce que je travaille et je reviens aujourd'hui vous aider. Et je les fais comprendre, on leur fait comprendre que les filles qui vont à l'école, elles peuvent aussi, comme les garçons, revenir soutenir la communauté. Parce qu'on gagnerait à ce que filles et garçons aillent à l'école et revenir soutenir la famille, la communauté, au lieu de miser uniquement sur le garçon. Parce qu'il vaut mieux donner la chance aux deux, parce que les deux se valent. Et on prend les exemples de ces dernières années, on prend les exemples de filles qui avaient 9 ans, 10 ans, qui n'allaient pas à l'école, qu'on a scolarisées et qui sont premières des classes. Elles sont une sorte de trophée qu'on bandit au chef de campement, au chef de famille qui hésite encore. Et donc, c'est ça.
Alors justement, ces jeunes filles que vous réussissez à scolariser après avoir discuté avec les parents, qu'est-ce qu'elles vous disent ? Quelles sont leurs réactions par la suite ?
La plupart sont très heureuses, sont très épanouies parce qu'en fait, l'école, c'est... Ça épanouit en fait. Elles se font des amis là-bas.
Ouais.
Elles nous racontent ce qu'elles vivent, ce qu'elles apprennent. Je donne l'exemple d'une petite fille, Baoulé, qui vit dans un campement et qui vivait avec sa grand-mère, qui était aveugle. Et la fille était là, c'est elle qui était aide de ménage. Elle ne faisait que ça. Et elle avait 9 ans. Le jour où on était en tournée dans son campement, on l'a récupérée. On a apporté une autre forme d'aide à la grand-mère et on l'a scolarisée. Mais au départ, elle ne comprenait pas le français. Mais aujourd'hui, je vous assure que la petite, elle est toujours parmi les 5 premiers de sa classe. Et elle est partie à l'école à 9 ans. Mais avec le fait qu'elle faisait les tâches ménagères, elle tenait la maison comme une grande personne, elle avait déjà un esprit d'adulte, en fait. Donc à l'école, elle ne bavarde pas. D'après le maître, elle ne bavarde pas. Au contraire, elle est elle se comporte comme une adulte. Et c'est en sa faveur. Elle est parmi les 5 premiers de sa classe. Et dans son campement, quand on va distribuer, on a distribué des fournitures il n'y a pas longtemps là-bas. Ouais. Et c'est elle qu'on brandit. C'est elle qu'on donne comme exemple pour dire, écoutez, emmenez vos filles à l'école. Vous voyez, si elles n'avaient pas été à l'école, elles sont comme les garçons. Parfois, les filles dévancent les garçons en classe. Et ça rigole, mais on sort les filles du lot, celles qui sont premières, deuxièmes. On leur montre, vous voyez, c'est des filles. Mais elles tiennent la tête aussi aux garçons. Et que les deux devraient avoir la même chance pour aller à l'école. Parce que les deux peuvent vous revenir meilleurs. Les deux peuvent revenir soutenir la communauté. Parce que eux, c'est ça. Il faut que la communauté, l'aide qu'on apporte, qu'est-ce qu'on apporte à la communauté, en fait, quand on leur prend les filles pour aller à l'école et qu'elles ne sont pas à la maison, ouais, pour aider et tout. On leur dit que c'est l'avenir qu'il faut préparer. Une fille qui va à l'école, au même titre que le garçon, peut aider sa communauté, peut aider son pays.
Alors, je sais qu'il y a aussi un volet à suivi, puisque vous vous rendez régulièrement dans les différents campements pour aller suivre un petit peu la vie quotidienne de ces jeunes filles que vous suivez, parce qu'elles se retrouvent quand même dans des situations de fragilité pour leur éviter, en fait, certaines déviances, notamment, et de se relâcher.
Oui. En général, les week-ends, en fait, des tournées dans le village, on va consulter et on va à l'école, on rencontre les enseignants qui suivent les filles, ouais, on visite les familles, parce qu'il faut visiter régulièrement la famille pour éviter que pendant la période des récoltes, on sorte l'enfant de l'école pour accompagner au champ. Parce que c'est ça arrive aux garçons, aux filles. Pendant la récolte, le père peut dire, aujourd'hui vous n'allez pas à l'école, vous allez m'accompagner, j'ai besoin de mes mains d'œuvre. Ouais. Donc on suit régulièrement. Et donc à cette période-là, on est là. On est là, parfois on apporte du savon, des choses aux parents, pas parce qu'on les achète, mais pour les soutenir aussi. Parce qu'au village, les enfants aident les parents au champ. Les samedis, par exemple, tout le monde va au champ. Au lieu que le père paie des manœuvres, il n'a pas l'argent, il préfère mettre ses enfants à contribution pour aider. Donc on essaie de les convaincre qu'il vaut mieux aller au champ avec l'enfant le samedi, parce qu'il n'y a pas école samedi, que de l'utiliser pendant l'année scolaire, pendant les jours d'école.
Ouais.
Et donc, voilà. Et pendant, en pleine année scolaire aussi, il y a les parents qui ont des choses, des objets, des vêtements, ouais, des chaussures pour les enfants. Parce qu'il y a des enfants qui sont dans un campement précis, mais qui vont à l'école dans un autre campement un peu assez éloigné. Il faut des chaussures, il faut les sacs solaires. Il y a des campements où il n'y a pas d'électricité. Donc, toutes ces choses, c'est au cours de l'année qu'on envoie. Et en décembre, on fait ce qu'on appelle Noël magique au village. On ramène des personnes de la ville. On collecte des cadeaux en ville. Que ce soit usagé ou nouveau, on va faire vivre l'esprit de Noël à ces enfants. Et tout ça, ça participe de leur épanouissement, en fait.
Alors, en gros, Madame Menet, Anne-Corinne, c'est quoi l'objectif de passer ce matin sur l'antenne d'Africa Radio ?
Ce matin, nous venons à Africa Radio pour appeler tout le monde à soutenir les initiatives en faveur de la scolarisation de la jeune fille. Le problème est réel. Et nous, particulièrement, nous travaillons avec certaines personnes, des particuliers et des entreprises,
ouais,
à qui nous tenons à dire merci. On ne peut pas les nommer ici, mais vraiment, on tient à leur dire merci parce que c'est grâce à eux que nous tenons, c'est grâce à eux que nous existons. Et nous appelons d'autres personnes aussi, de partout, qui peuvent soutenir l'œuvre, à participer, à se joindre à nous pour la scolarisation de la jeune fille en milieu rural.
Combien ça coûte de scolariser une jeune fille pendant une année scolaire ?
On a une grille qu'on envoie aux parents. Par exemple, le CP1, l'entrée en primaire, il ne coûte que 15 500 francs.
Ouais.
15 500 francs. C'est-à-dire, les 15 500 francs, dans une librairie de la place, on a un kit scolaire qui coûte 6 400. Et lorsqu'on achète le kit scolaire à 6 400, on a nos couturiers dans la ville qui nous font les vêtements, on achète une tenue scolaire, on achète un sac,
ouais,
et on paie ce qu'on appelle les frais de cogeste pour les enfants dans l'école. Parce que quand on ne paye pas ces frais, des fois, les enfants se retrouvent dehors parce qu'ils n'ont pas payé les frais. Et donc, à partir du CP1, c'est 15 500. Le CP2 aussi, la même somme. Le CE1, c'est 21 500. Le CE2, 23 000. Et le CM2 qui fait 25 000. Parce qu'à partir de CM2, il y a le CEP, il y a les frais des dossiers, les photos. Et donc, ça augmente un peu. Et donc, c'est ça, c'est un peu les frais.
Très bien. Donc, je rappelle que l'association est présente sur les réseaux, sur Internet également. Il y a aussi un site dédié, YvoZone, YIWO Zone, pour en savoir un petit peu plus. Et si vous voulez accompagner une jeune fille dans sa scolarité, n'hésitez surtout pas. Alors, on va aussi vous raconter en quelques mots votre parcours mené à Anne-Corinne. Vous êtes issue d'une fratrie de 14 enfants. Vous avez 38 ans, vous êtes mère de 3 enfants. Vous nous racontiez tout à l'heure que vous étiez à la base étudiante en première année de droit à l'université de Boisquet avant que la crise n'éclate en septembre 2002, ce qui vous a poussé à sortir du pays pour aller vous exiler au Bénin. Vous arrivez au Bénin, vous survivez de petits boulots et c'est là justement, grâce à une rencontre, que l'UNHCR vous accorde une bourse via une ONG locale et c'est là que tout a commencé. Vous nous en dites un petit peu plus ?
Bon, c'est ce que vous avez dit. Et quand je rencontre cette organisation locale, je suis à deux doigts de laisser tomber parce que je ne pourrais plus payer la scolarité. Et c'est comme ça qu'ils m'octroient une bourse, je crois que c'était 60 000 francs par mois.
Ouais.
On m'achète les fournitures et tout ce qui va avec. Et je reprends l'année. Je laisse tomber le boulot et tout marche bien. Et donc, je m'inscris en plus du droit en anglais.
Oui.
Parce qu'à l'origine, je voulais faire diplomatie. Donc, je me disais qu'il fallait, en plus du droit, faire l'anglais. Et ils acceptent de prendre en charge les deux cursus. Et c'est comme ça que je fais l'université et que tout se passe bien. Et en 2007, quand je quitte l'université avec mes diplômes en poche, je rentre en Côte d'Ivoire et du stage en stage. J'ai appris le boulot et bien que je peux moi aussi à travers une association, parce que les associations, c'est pas une personne, c'est des gens qui viennent à contribution. Si vous trouvez le bon créneau pour intéresser les gens, si vous arrivez à toucher les gens avec votre sincérité, avec la sincérité des histoires que vous... La sincérité et la réalité des histoires que vous racontez.
Oui.
Chacun se retrouve et les gens sont intéressés pour aider. Et c'est ça. Donc, on vit chaque jour ce qu'on fait.
C'est un engagement, l'engagement d'une vie et la vôtre. En tout cas, bravo pour cette belle histoire. On rappelle que l'association YvoZone vise à promouvoir l'égalité des chances à travers l'éducation des filles, l'alphabétisation des femmes dans le monde rural depuis 2017 et utilise le système de parrainage. Si vous êtes intéressé pour accompagner une fille dans sa scolarité, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de l'association. En tout cas, ça a été un plaisir de faire connaissance aujourd'hui et d'entendre votre histoire sur l'antenne d'Africa Radio. Madame Menet, Anne-Corinne, merci beaucoup de vous être rendue disponible pour les auditeurs d'Africa Radio.
C'est nous qui vous remercions pour l'opportunité que vous nous avez donnée de nous exprimer, de nous présenter. Et merci à vous.
À très bientôt. On souhaite longue vie à l'association YvoZone. On salue les équipes du côté d'Abidjan. Al-Khali, Fadiga, merci pour la technique. C'est vrai qu'il y avait des petites perturbations. Ça ira mieux demain, comme dirait l'autre. Merci à tous. Un bisou à Léonce et à Fatou Yatabaré, à Babi et à demain.
Vouloir ou pas, vous allez danser. Dono Gang International.